Radio Star.
Radio Star.
19h, 20h. Bonsoir le Sud. Avec César Léoni et Émilie Fargier sur Radio Star. Radio Star.
Bienvenue à tous dans Bonsoir le Sud sur Radio Star. Nous sommes jeudi soir en direct avec Émilie Fargier. Salut Émilie.
Bonsoir à tous, je suis ravie. Moi, je fais un gros bisou à Karim Benzema pour commencer. Voilà.
Elle me regarde et je croyais que c'était une déclaration.
Non, je sais pas.
Pascal, tu vas bien?
Ça va?
Ça va bien.
Depuis quelques minutes.
Plusieurs invités ce soir avec nous en studio bientôt et qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Thierry Reitmüller qui va nous parler du salon Métierama et puis on parlera de hockey par téléphone avec John Zickel, le président des Spartiates de Marseille, qui va tout nous dire sur la fin de saison. On démarre en faisant le tour de l'actu comme chaque soir. Évidemment, la grosse actu, Émilie, tu l'as dit, c'est l'élimination. Doit-on dire surprise? C'est l'élimination quotidienne, on va dire hebdomadaire, du PSG en Ligue des Champions par le Real Madrid. Ils gagnaient 1-0 au match aller, ils gagnaient 1-0 à la mi-temps, ils se sont pris 3-1. Au revoir messieurs. Bonne route.
Avec un grand Karim Benzema. Ouais. Après, bon, leur petite avance à l'aller du 1-0 chez eux, c'était presque naturel.
Ouais.
On s'attendait à Santiago Bernabéu que ça tienne pas. Et tant mieux, ça n'a pas tenu. Moi, j'ai envie de leur dire, entrez. Alors, je les ai vus en plus. Ils ont préparé le Real en allant à la Fashion Week.
Tout à fait.
Donc, au lieu d'aller à la Fashion Week, entraînez-vous à jouer collectif, les gars. Parce qu'il y a rien, quoi. Il y a aucun fond de jeu et tout. Au PSG, c'est très nul.
Il y a Mbappé.
Ouais.
C'est un joueur plus fort que les autres.
Tout seul, après, il peut pas faire grand chose. Hein. Tout seul face au Real, tu peux pas faire grand chose.
Ils sont toujours en négociation pour savoir s'ils restaient justement au PSG ou s'ils partaient au Real. Je crois que là, à mon avis, le destin a choisi.
Est-ce qu'il aurait fait exprès de pas trop forcer et de pas trop pénaliser le Real?
Je pense pas.
Non?
Je pense pas parce que lui, il a aucun intérêt. Le but, c'est qu'il y joue l'année prochaine, je pense.
Pour se faire aimer du peuple madrilène.
Ouais. En tout cas, Benzema était incroyable. Quel joueur, 34 ans. Il aura mis un triplé dans la tronche. Ouais. Bravo. Très très fort Karim Benzema. Alors là on parle d'un autre match qui nous touche d'autant plus, c'est l'Olympique de Marseille qui joue ce soir au Vélodrome contre Bâle. Alors c'est la Ligue Europa Conférence, c'est un peu moins glamour, mais on est à fond dedans quand même. On est à fond dedans.
Ben, on est toujours à fond puisque c'est le seul titre qui nous reste à jouer cette année, donc
ouais.
On s'emballe. Cette fois je l'ai fait exprès.
Ah,
voilà.
Très fort.
Et on attend une victoire de l'OM et on attend une dédicace de Jean-Marc qui commence le match ce soir, qui nous fera pas je pense.
Il sera sur W9, le match gratuit pour une fois, donc faut le préciser à chaque
c'est
fois.
Cool.
À 21h sur W9, Jean-Marc Ferry qui est avec nous dans Mon AM à moi et qui nous promet à chaque fois une dédicace, on ne l'a jamais. On va voir si ce soir il a retrouvé un peu de courage.
Vous voulez que c'est, hein, apparemment.
Bah, oui.
Parce qu'il a, il nous oublie, quoi.
Ouais, carrément.
Voilà, dès qu'il a W9.
Il change de média, ça y est.
C'est ça.
On n'existe plus.
Alors que nous, il nous parle de W9 ici sans arrêt, quoi.
Sans arrêt.
Voilà. Comment tu le sens, ce match contre Bâle? Parce que là, on sait qu'en ce moment, le contexte marseillais est perturbé, Sampaoli un peu sur la sellette, le président Longoria qui se prend la tête avec les supporters. Comment ça peut se passer?
Je suis pas après spécialiste du foot suisse. À mon avis, c'est une équipe tout à fait à notre portée.
Ouais.
J'ai pas l'impression que pour l'instant cette mini crise ait beaucoup de retentissement sur le terrain. Même si on a des résultats en Dancy, on l'a vu quand même en Ligue Conférence. J'ai l'impression qu'il donne tout. Enfin ouais, il donne un peu plus en tout cas dans cette compétition qu'en championnat. Après ouais, faut voir s'ils arrivent à régler leurs problèmes dans les vestiaires. Moi, je pense quand même qu'on devrait gagner au moins 1 ou 2-0.
Est-ce que tu penses que, admettons, un coup dur ce soir, on perd 2-0 au Vélodrome contre Bâle, ça peut être vraiment pour le coup, ça peut faire décapsuler.
Sur la sellette.
Ouais.
Ah, quand même. Enfin, je veux dire, nous, on s'affole, mais ça fait pas non plus. Enfin, on est troisième quand même du championnat. C'est pas Pochettino qui risque sa vie au PSG.
Bah lui, a priori, il ira jusqu'au bout parce que c'est trop cher de le larguer maintenant, de le virer maintenant. Donc, il va être champion de France avec 10 points d'avance et il va se faire lourder cet été. Oui. On espère en tout cas que voilà, le Vélodrome devrait pas être plein. Je crois qu'ils attendent 35 000 seulement. C'est pas très suivi, hein.
Ouais, mais en même temps, c'est un jeudi soir, en semaine, c'est Bâle, ça fait pas rêver non plus.
C'est sur une chaîne gratuite.
Voilà, donc, il vaut mieux rester au chaud à la maison et regarder W9.
Alors, on l'assure, on change complètement de sujet, c'est en politique. Emmanuel Macron devait venir à Marseille pour faire ses premiers meetings pour les présidentielles. Il devait venir le 5 mars, il devait venir le 12. Finalement, il ne vient pas. Mais il y aura un meeting La République En Marche qui aura bien lieu samedi. Alors, il y aura le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il y aura Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui seront présents samedi à 17h. Est-ce que vous savez où? Parce qu'à la base, ils annonçaient au Pharo.
Ah oui, c'est ce que j'avais retenu.
Grand rassemblement populaire au Pharo. Mais ils annoncent de la pluie.
Ah, oui.
Donc,
épisode méditerranéen.
Épisode méditerranéen, comme dirait Pascal. Donc, de la pluie, donc on va à l'intérieur. Et ben, du coup, ils vont au restaurant Le République Place Sadik Arnaud.
Ah oui, 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 mais c'est pas.
Mais c'est petit.
Bah, c'est tout petit.
Donc ça veut dire que
c'est dire qu'ils attendent pas grand monde.
Les ambitions à la baisse.
Et ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de choisir un tout petit resto pour faire un rassemblement de soutien au président actuel en plus?
Ouais, moi quand tu m'as dit ça, je me suis dit ils vont aller au Parc Chano, pas aller au congrès, un grand.
Alors il y a peut-être un signe parce que je crois que ce restaurant propose aux gens qui peuvent pas trop payer.
Exactement.
Des menus à 1 euro.
C'est ça. Oui. Pour les gens qui ont sur domicile fixe, exactement. Il y a des menus à 1 euro, des menus en plus. Qui sont de très bonne qualité, c'est pas de la bouffe à emporter. Donc voilà, c'est de très bonne qualité. Effectivement, le message est un peu clair. On va là-bas en disant on se rapproche des gens.
Oui, si c'est pour ça, la symbolique est assez sympa, mais je pense pas qu'il fasse beaucoup de monde. En même temps, s'il pleut, t'as pas envie à la base d'aller dans un meeting, mais en plus, s'il pleut, t'as pas envie de te déplacer tout court.
Tu m'étonnes. Des initiatives en hommage à l'Ukraine, il y en a pas mal. Ça se multiplie à Marseille. Demain, grand concert pour la paix, l'humanité, la solidarité organisé par le comité des activités sociales interentreprises des cheminots de la région. Alors là, ça va loin. La dénomination, elle est longue, ça aura lieu au Dock des Suds à 19h. La place est à 10 euros, il y aura Sinsemilia. Sinsemilia, un groupe un petit peu...
Oui.
Tout le bonheur du monde.
Ouais, tout le bonheur du monde, exactement.
Et c'est tout.
Voilà, il y aura Sinsemilia et des groupes locaux. Donc ce sera 10 balles l'entrée, 10 balles pour faire un geste pour l'Ukraine. Voilà, moi je trouve ça bien de toujours parler des initiatives positives.
Oui, c'est sympa.
Quelle qu'elle soit,
Et puis en plus, c'est un groupe qui avait eu du succès. C'est assez sympa, c'est pas non plus...
Oui.
Passe une petite soirée pour la bonne cause.
Et en parallèle, l'hôtel de ville de Marseille reçoit toujours des dons de première nécessité, des couvertures, des oreillers, des pâtes, des paquets de riz, tout ce que vous pouvez donner. C'est tous les jours de 9h à 19h, sauf le dimanche, à l'hôtel de ville de Marseille, vous pouvez déposer tout ça.
Et ce matin, à 2h du mat, il y a le camion qui est parti d'Allo pour rejoindre l'Ukraine.
Bien.
Ouais. Donc les chauffeurs qui vont conduire 17h ou un truc comme
ça. Je crois que c'est ça,
ouais. Pas loin de 20h,
Un coup dur, on va finir avec ça, cette première partie, c'est Frankie Zapata. Vous vous rappelez de qui est Frankie Zapata?
L'homme volant
de Marseille, en tout cas de Provence. Et il devait inaugurer sa nouvelle invention qui est une voiture volante. Il avait fait le jetpack là où il est au-dessus de l'eau et il peut voler. Et là, il avait une voiture volante à faire décoller. Ça devait avoir lieu samedi à l'aérodrome de Salon-Aiguière. Et faute d'autorisation de l'aviation civile et de la préfecture, le vol a été annulé. Donc voilà, il l'a pris assez mal.
À chaque fois le coup. Ouais. Pour l'overboard, il lui avait déjà fait le coup. Il s'entraînait à Foss. Il avait voulu, traverser le port de Carry ou de Carreau, je ne sais plus lequel. Mmh. Il n'avait pas eu les autorisations non plus. Ouais.
Alors la nouvelle procédure, lui a repoussé son vol jusqu'en juillet. Donc lui, il est un peu vénère parce qu'il a bossé dessus pendant des mois et des mois. Il avait tout préparé pour l'innovation de son truc et il a dit tant pis. Si vous me repoussez à juillet, moi je vais faire autre chose. Je vais organiser un vol semi-privé au mois de mai, ouvert à la presse et en dehors de France.
Ah d'accord, en dehors de France, j'allais dire, il aurait pu aller à Talar ou quoi, dans une autre région.
Et non.
Carrément plus en France.
Ouais, voilà. Je pense qu'il a craqué, des légalisations un peu compliquées en France et il s'est dit, ras-le-bol.
Comment perdre des talents français?
Exactement. Mm. Les uns après les autres, à chaque fois, ils se barrent ailleurs. C'est très dommage. On va faire une petite pause juste après. On revient en parlant de hockey avec John Zwickel, qui est un peu la légende du hockey français. Il va tout nous dire sur la fin de saison des Spartiates de Marseille. Qu'est-ce qu'on écoute, Pascal?
Bonsoir le Sud sur Radio Star.
Radio Star.
Avec César et Émilie.
On est de retour dans Bonsoir le Sud avec Émilie et Pascal sur Radio Star. Plusieurs invités ce soir qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est Thierry Hettmüller qui viendra nous parler du salon Métirama. Et puis on va parler de hockey. On l'a annoncé avec John Zwickel, le président des Spartiates de Marseille. Salut John.
Salut à tous.
Salut.
Alors bonjour. John, t'es un habitué des lieux. On va le rappeler, Radio Star est partenaire du club des Spartiates de Marseille. Il faut préciser que la saison régulière est bientôt terminée. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette saison en amont de ton intervention?
Bah écoutez, on a eu un début de saison un peu difficile avec pas mal de blessures dès les premiers matchs qui nous a mis un peu en difficulté en tout début de saison. Et puis au fur et à mesure, on a récupéré les blessés, on a bien lancé notre saison. On a été à un moment donné un petit peu en difficulté au milieu, en étant à ventre mou. Et puis là, ça fait une belle série derrière nous pour nous relancer dans la course aux playoffs avec ce match décisif qui arrive là pour définitivement nous qualifier pour les playoffs, ce qui était l'objectif de la saison.
Alors, on va rappeler peut-être ce que c'est que les playoffs, parce qu'en France, on a l'habitude de la Ligue 1, du foot, avec un championnat régulier qui s'arrête, et puis tu finis premier, deuxième, troisième. Les playoffs, qu'est-ce que c'est, John?
C'est un peu comme au rugby, vous avez les phases finales, la saison régulière, chacun joue les uns contre les autres, un aller-retour, chaque équipe joue contre toutes les équipes, et puis à la fin de ce championnat de saison régulière, il y a un classement de 1 à 14 et le premier jusqu'au 8e joue les phases finales. Donc le premier joue contre le 8e pour les quarts, le deuxième contre le 7e aussi pour les quarts. Voilà, il y a les quarts de finale, après demi-finale et finale. Et le format de chaque tour, donc du quart de finale, des demi-finales, de la finale, c'est qu'il faut gagner 3 matchs.
Ouais.
Un peu comme au tennis, c'est un match à 5-7, il faut gagner 3 matchs, donc ça peut aller en 5 matchs.
Alors qu'est-ce qui va se passer pour les Spartiates là? Pour l'instant, vous en êtes où?
Mais là, on est huitième. Ouais. On est huitième, mais avec 2 points d'avance. La victoire est à 3 points. Donc, si on gagne samedi, on est qualifié définitivement pour les playoffs. On a notre destin en main. Par contre, si on perd et que le neuvième, qui est Strasbourg, gagne, on est pas en playoffs. Donc, c'est un match décisif, crucial pour nous, ce match contre
Épinal.
Épinal.
Ouais, ça aura lieu donc à la patinoire de Marseille samedi à 19h30. Alors, il y a beaucoup de com autour des Spacettes parce que vous voulez battre un record, hein, samedi. Explique-nous un peu ce record.
Bah, en fait, il y a un double intérêt sur ce match. Il est c'est rare d'avoir un match comme ça aussi décisif. Ça veut dire que là, tu gagnes, tu passes, tu perds, bah tu passes pas.
Ouais.
Donc il y a l'intérêt sportif qui est passionnant. Et puis il y a aussi cette volonté, comme on a la plus grande patinoire de France, on est les seuls à pouvoir battre le record de l'histoire du hockey français pour un match de championnat qui est de 4208 personnes d'affluence. Et comme nous, on a une patinoire qui fait plus que ça, on peut le battre.
Ouais.
Pour ça, il faut que les Marseillais viennent pour ce match. Alors, soit les habitués, soit les gens qui veulent découvrir le sport. Je pense que c'est le moment ou jamais, avec ce record à battre et cet intérêt sportif, de venir découvrir ce que c'est le hockey sur glace et les Spartiates de Marseille.
On peut le rappeler, John, le hockey, c'est le deuxième sport au niveau de l'affluence à Marseille, hein.
Oui, on a 2500 personnes de moyenne, on fait des pics à 3008, 3900 personnes, et oui, Marseille intramuros, ça parle OM, il n'y a pas un sport collectif qui arrive à rassembler autant de monde.
Émilie, il y a une question pour toi.
Ouais, je crois que pour battre le record, vous avez mis en place une promo, non?
Oui, c'est un billet acheté, un billet offert pour tout le monde. Comme ça, ça permet effectivement aussi à ceux qui ont l'habitude de venir, bah, d'inviter un ami, de faire découvrir ce sport à une connaissance. Et donc c'est un peu l'idée de cette promotion, c'est de permettre à ceux qui sont quelque part déshabitués de convaincre un ami de venir découvrir ce fabuleux sport. Et puis nous on est assez confiants parce qu'on sait que c'est du 100%. On peut rembourser les places si les gens ça ne leur plaît pas, parce qu'on sait que ça plaît à chaque fois aux gens. C'est du 100% de satisfaction quand on vient voir un match de hockey.
Alors justement, pourquoi si je me mets à la place de quelqu'un qui n'est jamais venu voir un match de hockey, John, comment tu me donnerais envie de venir?
Bah, c'est la rencontre entre la vitesse et le contact, en fait.
Donc, ouais.
C'est le sport le plus rapide du monde. Évidemment, on est sur des patins. On est sur une aire de jeu de 60 mètres sur 30 mètres. 5 joueurs face à 5 joueurs plus un gardien. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et ça va très vite. Et on a droit au contact. Donc, forcément, la rencontre entre la vitesse et le contact, c'est quelque chose de très spectaculaire. Il y a des buts. Il se passe des choses aussi en dehors du hockey. C'est-à-dire qu'on a tout un show. On a de la musique. Voilà. On passe un bon moment. C'est très familial. Beaucoup de femmes aussi qui viennent voir ce sport, qui aiment beaucoup ce sport, parce que c'est très divertissant. Et de manière générale, pour les néophytes, même quand on comprend pas toutes les subtilités, on passe un bon moment, parce que c'est distrayant, justement pour la raison que j'ai donnée, c'est du spectacle, c'est de la vitesse, c'est du contact, c'est de la virilité. Donc tout ça, ça fait un cocktail qui plaît énormément aux gens.
Et les règles, c'est pas trop compliqué, les règles du jeu?
Non, il y a deux règles à comprendre. Donc il y a le hors-jeu et le dégagement interdit, mais encore une fois, même si personne a l'occasion d'expliquer à quelqu'un ces deux règles-là, malgré le fait qu'elles soient pas compliquées, mais il faut quand même qu'on les explique. Donc si on se les fait pas expliquer, il y a moyen de prendre du plaisir à regarder ce sport, encore une fois, parce que ça va très vite, il y a des buts, il y a du spectacle. Et même quand on ne comprend pas toutes les petits détails, ben en général les gens sont satisfaits parce que voilà, encore une fois, c'est très spectaculaire.
Donc on le rappelle, il y a un match voilà décisif samedi contre Épinal à la patinoire de Marseille à 19h30. Une place achetée égale une place offerte. Donc s'il y a défaite, mais on ne le souhaite pas du tout,
non,
la saison s'arrête là.
Ils promettent la victoire.
Ah non, on promet la victoire. S'il y a victoire, si vous êtes huitième, John, comment ça se passe concrètement? Le planning derrière, c'est quoi?
On peut encore finir. Ça va dépendre. Si on gagne, on est sûr d'être qualifié, mais on peut finir entre 8 et 6, en fait. Ça va dépendre vraiment des résultats des uns et des autres.
Ouais.
C'est un championnat qui est toujours très serré.
Mm-hmm.
Donc si on gagne, on est sûr d'être dans les 8, mais on ne sait pas à quel niveau, entre 6, 7 ou 8. Donc on ne sait pas encore non plus quel serait notre adversaire si on se qualifiait pour les playoffs, parce que forcément le classement va encore bouger cette dernière journée.
Et est-ce que ça va être joué sur un timing très court, ou là ça va vous amener jusqu'à, je sais pas, fin avril par exemple?
Mais après, c'est comme un tournoi de tennis, en fait. Donc après, bah, plus tu continues, plus ça t'emmène loin.
Ouais.
La finale est prévue fin avril. Donc les quarts de finale commencent le 19 mars. Donc voilà, c'est après, il faut gagner 3 matchs dans chaque série. Une série, c'est les quarts de finale. On jouerait une équipe, si on se qualifie, on jouerait une équipe. On va devoir gagner 3 matchs. Si on gagne 3 matchs, on passe en demi-finale. Il faut regagner 3 matchs et la finale finit à la fin du mois d'avril.
On va peut-être rappeler pour les gens, parce que on se rappelle la saison dernière, vous aviez été champion et les gens n'ont pas compris pourquoi vous n'étiez pas monté. Est-ce que tu peux juste rappeler aux gens pourquoi?
On n'est pas monté parce que avec la crise du Covid, très tôt dans la saison, la fédération, en accord avec tous les clubs de toutes les divisions, avait décidé de de geler les divisions parce qu'il y avait déjà des problèmes financiers. On voulait pas accentuer les problèmes et les risques financiers pour les clubs. Donc on avait toutes les montées et descentes avaient été gelées.
D'accord.
C'est pour ça qu'on est resté dans cette division.
On le rappelle une dernière fois, donc samedi 19h30, patinoire de Marseille, match décisif contre Épinal. Après, il y aura peut-être les playoffs. On vous le rappelle, une place achetée, une place offerte. Emilie, on offre des places aussi pour les auditeurs de Radio Star.
Ils ont beaucoup de succès. Alors, tous ceux qui y vont, ils nous disent on s'est régalés.
C'est vrai.
Et en plus, on offre des places en VIP.
Tout à fait.
Ouais, et puis je pense, pour finir, que je ne suis pas marseillais depuis longtemps, mais je sais que les Marseillais aiment être les premiers.
Ouais.
Et je pense que c'est quand même fascinant et excitant de pouvoir participer comme ça à un record historique dans un sport. Donc il y a juste à prendre des billets et venir assister à ce match et on pourra tous ensemble rentrer dans l'histoire de notre sport.
Merci beaucoup John, tu reviens nous voir une fois que vous aurez gagné les playoffs. On fait comme
avec
ça.
Avec plaisir.
Allez,
avec
ça
plaisir.
Marche.
Bonne chance.
Merci à toi John, bonne chance, bon courage
merci,
pour
merci
le samedi. On fait une petite pause, on se retrouve juste après sur Radio Star avec Thierry Rettmüller qui viendra nous parler du salon Métierama, il va arriver dans quelques minutes.
Ouais.
Radio Star. Radio Star. 19h, 20h. Bonsoir le Sud. Avec César Léoni et Émilie Fargier sur Radio Star. Radio Star.
On est de retour dans Bonsoir le Sud sur Radio Star avec Émilie et Pascal et donc notre invité du soir Thierry Rettmüller qui vient nous parler du salon Métierama. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Alors bon, Métierama à la base c'est une association si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, c'est une association qui, bon je ne vais pas dire son âge parce que l'association est née en 1974.
C'est pas mal.
Donc on a une grande expérience en fait sur l'organisation des manifestations qui est Métierama et qui s'appelle le Salon des Métiers et des Formations.
Ouais.
Donc voilà, on présente les métiers et les formations depuis 45 ans aux jeunes, en fait, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes demandeurs d'emploi. Et on les aide à travailler leur orientation et à découvrir leur voie en fait en fonction de leur goût et de leur talent.
Le salon va se tenir donc les 18-19 mars au Parc Chanot de Marseille. Qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement quand on vient à Métierama, au salon Métierama?
Alors quand on vient à Métierama, on y vient parce que souvent on ne sait pas ce qu'on veut faire en fait.
Ouais.
Et on a envie de choisir sa voie, son orientation professionnelle, et on y découvre en fait les branches professionnelles, les opérateurs de compétences, les entreprises en fait qui vont parler eux des univers métiers en fait et des postes à pourvoir parfois, et surtout le contexte en fait dans lequel les jeunes peuvent se retrouver. Et ensuite on y trouve aussi les organismes de formation. Alors les lycées professionnels ou les CFA qui peuvent proposer les formations qui conduisent au métier.
Ouais. Quand on avait 17-18 ans, Émilie, toi, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Toi, oui. Toi,
moi,
t'as toujours su.
J'ai 3 ans, je sais ce que
toi, tu sais
faire.
Ce que tu veux faire. Mais est-ce que vous diriez, Thierry, que les jeunes savent moins ce qu'ils veulent faire aujourd'hui ou ça a toujours été le cas? Y a pas vraiment de mode. On est un peu perdu à cet âge-là, quoi.
Alors, on est perdu à cet âge-là. Et Émilie, peut-être elle savait ce qu'elle voulait faire à 3 ans, mais en fait, le parcours est long et en fait, on ne sait pas ce qu'on veut faire à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. On a besoin en fait d'être aidé dans sa recherche et bon nombre de parents se retrouvent à table en fait avec leurs enfants en disant mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Et là c'est un dilemme parce que il y a souvent une différence entre ce que veulent les parents et ce que veulent les enfants.
Ouais.
Et nous on n'est pas là pour juger en fait, on est là pour aider à découvrir, susciter des vocations chez les jeunes. Et c'est pour ça qu'on existe et qu'on est toujours là en fait, parce que on est sur un modèle différent où on laisse les jeunes en fait s'approprier leurs envies. C'est pour ça qu'on est sur un spectre large en fait de métiers et on essaie de faire venir un maximum de branches professionnelles d'opco et de métiers pour que justement ils puissent apporter un maximum d'informations aux jeunes.
Oui. Les jeunes qui se dirigent vers l'apprentissage, ce sont pas forcément des mauvais élèves, ce sont peut-être plutôt des jeunes qui n'aiment pas trop l'école ou qui sont plus manuels.
Alors en fait, l'apprentissage en fait on a un regard en fait un petit peu rétrograde de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, on peut le faire du niveau 3e au niveau bac plus 5.
Ouais.
Et c'est un excellent moyen pour accéder à l'emploi. Parce que on peut aussi bien travailler dans les métiers manuels, mais aussi dans les métiers d'ingénieur. Donc en fait, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est vraiment une véritable voie pour vers l'emploi.
Il y aura beaucoup de familles de métiers présentes sur le salon. Dites-nous quelques-unes, justement, de ces familles de métiers. Il y en a plein.
Alors, il y en a plein. Alors, on est sur... Alors, il y en a tellement qu'en fait, on a réfléchi, on s'est dit, on va faire 3 grandes thématiques.
Ouais.
Aider, servir, protéger. Créer, produire, innover. Et organiser, gérer, communiquer. Parce que pour aider les jeunes en fait à se retrouver, parfois dans un salon comme le nôtre qui est assez grand, en fait, ils s'y perdent. Mmh. Donc en fait, vous allez avoir plein de métiers en fait, comme les métiers du bâtiment ou les métiers de l'ingénierie, les métiers du centre de la santé, les métiers du social, les métiers du journalisme, les métiers du nautisme, les métiers de la mer. Je veux dire les métiers tertiaires avec les avocats, les comptables. En fait, donc c'est un spectre très très large en fait, où tout le monde peut s'y retrouver en fait à un moment donné en fonction de ses capacités, parce que bon, il faut avoir certaines capacités en termes d'études en fait pour accéder à certains métiers. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que tout le monde peut y arriver à partir du moment où on a un rêve. Je pense qu'il faut y croire en fait, c'est se donner les moyens en fait d'y arriver.
Quelles sont les entreprises qui recrutent le plus en apprentissage? Parce que des fois, il y a des apprentis qui ont du mal à trouver des contrats.
Alors, il y a des métiers en tension dont on parle, en fait. Alors, il peut y avoir des métiers en tension, comme aujourd'hui, on les connaît bien, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, la propreté. Mais il y a aussi des nouveaux métiers, comme les métiers du numérique, en fait, qui aujourd'hui ont du mal à recruter, parce que c'est des métiers, en fait, qui ont pas eu le temps en fait de former leurs jeunes en fait, former les jeunes pour arriver à des métiers en fait qui sont très techniques et qui recrutent abondamment.
Mmh. Vous adressez donc aux lycéens, aux étudiants, mais moi je me dis par exemple une personne qui a 35 ans, 40 ans, qui a envie de se reconvertir, est-ce qu'il peut venir à Métierama et voilà changer de voie complètement?
Alors là, on est sur. Alors, c'est une très bonne question en fait, un très bon sujet, parce que en fait, Métierama permet en fait aussi aux parents qui viennent parfois accompagner leurs élèves et qui sont dans des situations difficiles, de pouvoir se dire je suis en difficulté professionnellement et j'ai envie de changer de voie, et la reconversion aussi elle est possible quand on vient à Métierama, parce que vous avez les opérateurs de compétences en fait, ce sont des organismes qui sont responsables en fait de gérer les fonds de formation et qui sont en contact avec les demandeurs d'emploi, avec les gens qui veulent se reconvertir. Aujourd'hui, on est sur une orientation tout au long de la vie. C'est-à-dire que l'orientation, c'est pas juste en troisième. L'orientation, ça va de la troisième à jusqu'à 55 ans, 60. Exactement.
Ouais.
Aujourd'hui, on a la chance, et c'est vraiment une chance, de pouvoir, à un moment donné, se dire, j'en peux plus de ce métier. Je trouve plus de sens. J'ai envie de faire des métiers qui a du sens. Il y a des gens qui ont des diplômes en fait, qui repartent dans les métiers manuels parce qu'ils y trouvent du sens et un intérêt.
Ouais.
Donc oui, aujourd'hui on peut trouver sa voie à n'importe quel âge.
Émilie,
quels sont les avantages du contrat d'apprentissage? On est payé, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages?
Alors, justement, les avantages en ce moment, c'est que vous avez des aides en fait mobilisées par le gouvernement pour pouvoir donc accéder en fait à des offres d'apprentissage qui permettent à l'entreprise en fait de payer pas grand chose aujourd'hui, hein. Donc ça, déjà, c'est un premier intérêt. Un deuxième intérêt, c'est que vous avez un pied dans l'entreprise.
Ouais.
Et c'est que vous faites pas une formation initiale où vous êtes devant un enseignant qui vous parle pendant 20 heures en fait des programmes. Non, vous partagez votre temps en fait entre l'entreprise et la formation. Et ça, c'est tout bénéfique en fait pour le jeune en fait qui accède à une formation d'apprentissage, parce que il découvre l'entreprise et trouve les rouages dans l'entreprise. Et ensuite, en général, l'entreprise, quand elle prend un contrat d'apprentissage et que le jeune est sérieux, eh bien à la fin, il l'embauche.
Thierry, on va faire une petite pause, on se retrouve juste après, on va continuer de parler des filières de métiers, de Métierama, du salon Métierama, donc 18 et 19 mars au Parc Chanot de Marseille. Qu'est-ce qu'on écoute, Pascal?
Bonsoir le Sud sur Radio Star.
Radio Star.
Avec César et Émilie.
De retour dans la dernière partie de Bonsoir le Sud sur Radio Star avec Émilie, Pascal et donc notre invité Thierry Reitmüller qui nous parle du salon Métierama. Alors voilà, on a parlé un peu tout à l'heure des filières qui recrutent, notamment en apprentissage. On dit que le monde du travail en ce moment en France est en stand-by, on va dire, depuis la crise sanitaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a vraiment du boulot en France aujourd'hui, Thierry?
Ah bah, je pense que oui, il y a du boulot. Quand on s'adresse à Pôle emploi, en fait, on voit qu'il y a plein d'offres en fait qui sont pas pourvues, exactement.
Ouais.
Et oui, il y a du travail. Après, oui, il faut avoir envie de travailler, de mettre les mains dans le cambouis. Il y a certains métiers qui sont pas faciles, mais qui recrutent. Sans vouloir le nommer, je veux dire les métiers de l'hôtellerie-restauration. Je veux dire, ça recrute les métiers du bâtiment, les métiers de la propreté, les métiers du.
Les mais métiers... boucher aussi. Il paraît qu'on est en pénurie de boucher.
Ah bon?
Boucher, charcutier.
Alors aujourd'hui, un boucher, il gagne plus d'argent que vous et moi.
C'est super bien payé en plus.
Parce qu'à l'époque, alors merci Emilien pour la question, parce que effectivement il y a 5 ou 6 ans en fait, il manquait des bouchers en fait, et là l'organisation patronale en fait des bouchers s'est dit il faut faire quelque chose. Ils ont communiqué tellement bien communiqué qu'aujourd'hui effectivement vous avez des bouchers de plus en plus, et un boucher aujourd'hui qui monte sa petite entreprise, eh ben il travaille
et il gagne, cartonner.
Et il cartonne.
Ouais.
Et il cartonne. Alors bon, c'est pas un métier sexy hein, peut-être, mais
ça peut hein.
Ça ouais.
Aujourd'hui la bouffe c'est glamour, donc tout le monde trouve ça très bien.
Mais en tout cas, je vous assure que un boucher, il gagne bien sa vie,
ouais.
Et il y a aucun souci en termes d'emploi.
Au niveau des gens qui recherchent justement un emploi, est-ce que le CV et la lettre de motivation, c'est toujours aussi important, Thierry, ou alors c'est un peu obsolète? On est plus dans le contact direct.
Ah, ça a changé tout ça. Ouais. Enfin, ça a changé, on n'est plus je regarde le CV là, je veux dire aujourd'hui les jeunes, il faut aller chercher ailleurs.
Ouais.
Ils viennent plus vers vous de toute manière, il faut les chercher sur les réseaux sociaux.
Mmh.
Et donc en fait un employeur, quand il cherche quelqu'un, il regarde l'expérience, les soft skills en fait, je veux dire sa façon, les façons de savoir être, savoir faire. Ça passe en priorité,
ouais.
Et ensuite la volonté de bien faire en fait, d'être présent. C'est ça que recherche un employeur.
Alors les conseils que vous donneriez aux jeunes qui vont venir sur Métier Ramal les 18 et 19 mars au parc Chano, comment se comporter quand on va au devant d'un recruteur?
Moi je leur dis déjà essayer d'arriver, d'avoir préparé déjà au moins sa visite. C'est-à-dire, quand on va voir un employeur ou quand on va rencontrer quelqu'un, on se prépare en fait.
Ouais.
C'est déjà bien d'arriver, savoir ce qu'on va dire et ce qu'on va chercher. Ça donne déjà un côté sérieux en fait dans la recherche.
Ouais.
Ensuite, venir à Métier Ramal, c'est se dire, soit je sais pas ce que je veux faire et je vais interroger les personnes en fait qui vont m'aider, parce que les gens sont là quand même pour aider. Je veux dire, on n'est pas sur un salon, où on est dans le pro business, quoi. On est là, je veux dire, et les branches professionnelles, les OCO, je veux dire, ils viennent, prennent sur leur temps pour informer les jeunes. Donc en fait, il faut y aller, poser des questions et ne pas avoir peur en fait, de se dire je vais dire n'importe quoi. Non, en fait, il faut y aller franco et essayer d'y aller avec un côté sérieux quand même. C'est pas juste une visite de routine. Je veux dire, c'est une sortie scolaire qui a du sens et qui a un but. Donc respecter les gens qui sont là, mais par contre y aller, poser des questions, et les gens ils sont très contents en fait de répondre.
Ouais. Emilie.
Est-ce que le look, ça compte toujours autant?
Oui,
parce que moi, à l'époque, c'était costume, pas de tatouage, pas de machin. C'est toujours aussi important.
Bon, Emilie, elle me pose une question difficile, parce que moi, je suis quand même...
Vous êtes en costume.
Je suis en costume, donc mais aujourd'hui, les jeunes, on sait que... je vais pas dire que c'est pas important, en fait, d'être habillé. Ce que je veux dire, c'est avoir un savoir-être, en fait. Aujourd'hui, on peut être très, très fort. Vous les voyez de plus en plus, hein. Les pro business, ils ont plus de cravate en fait, ils viennent en chemise avec une veste. Mais les jeunes, en fait, à partir du moment où un jeune arrive, en fait, même s'il est pas forcément habillé comme on souhaiterait à un certain âge, à partir du moment où il va s'entretenir, il va avoir un discours propre en fait, et avec un peu de vocabulaire en fait, il va être écouté. C'est pas le plus important aujourd'hui. Les soft skills, c'est important, les savoir-être, savoir-faire. Après, aujourd'hui, chacun peut s'habiller comme il veut.
Moi, j'ai une amie qui est recruteuse, pour ne pas divulguer son métier, à la mairie de Marseille. Et elle me dit, il y a pas longtemps, on a mis une annonce pour un poste qui ne demandait pas beaucoup de compétences. Elle me dit, on a eu une vingtaine de candidatures. Elle a reçu une dizaine de personnes. Elle m'a dit, sur les 10, il y en avait 5 ou 6 qui sont venus en jogging. Et elle me dit, ça le fait pas, en fait. T'as beau faire, ça le fait pas, quoi. C'est quand même une règle de base. Vous venez en jean, Elle me dit, les jeunes, là, ils en avaient rien à cirer. Ils sont venus comme ici. Ils allaient bouffer un truc dehors, quoi.
Ben les jeunes sont comme ça aujourd'hui. Alors soit on s'adapte et je veux dire et on n'est pas dans le move en fait.
Ouais.
Soit on se dit c'est pas parce qu'ils sont en jogging qu'ils sont mauvais.
Ouais. Ouais.
Parce que sinon vous allez à l'affrontement en fait.
Ouais.
Alors il faut accepter.
Peut-être qu'ils sont un petit peu plus vieille école aussi, l'administration etc. Par rapport à une entreprise, une start-up etc.
Moi je trouve que c'est dommage de s'en tenir au look parce que tu peux passer à côté d'une personne qui a plein de talents.
Bien sûr.
Juste parce qu'elle a un style différent.
Ouais.
Ouais, sincèrement, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont dans les quartiers difficiles et qui ont un talent fou. Et bon, ils vont arriver peut-être avec un jogging, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, si vous allez chercher un peu, vous allez voir que derrière, il y a du talent. Et nous, on est là-dessus, on est sur le talent des jeunes, en fait. Et peu importe, alors évidemment, tout tatoué à la ville de Marseille, ça va poser un problème, ou dans la police, oui, ça va poser un problème. Après, si on est derrière un ordinateur, en fait, on est en back office, on est derrière, je veux dire, peu importe. Après, sur des métiers de présentation, c'est plus compliqué, parce qu'il y a quand même toujours ce rapport, en fait, à l'autre, qui fait qu'il faut quand même qu'on ait une allure. Voilà.
Thierry, dernière question. Est-ce que concrètement, vous avez des anecdotes, des souvenirs sur des rencontres, voilà, fructueuses qui se sont déroulées au Salon Métierama où vous avez vu, voilà, quelqu'un trouver exactement la perle rare ou quelqu'un arriver sans savoir ce qu'il voulait faire et ressortir avec un job? Est-ce que ça, vous avez des souvenirs de ça?
Alors, sincèrement, on n'a pas assez de temps pour que je vous livre des anecdotes.
C'est vrai.
Parce qu'il y a quand même, il y a 45 ans, en fait, de vie derrière Métierama quand même, hein. Moi, j'ai, alors, la petite anecdote, allez, je vais vous la dire. Il y a 4 ou 5 ans, on avait un stand à la foire de Marseille, en fait. Et je tenais le stand et j'étais là et j'attendais, je renseignais les gens. Et il arrive un couple, en fait, qui passe devant moi. Il passe, il s'arrête et ils disent, mais tu te souviens? Il dit à sa femme, en fait, le monsieur, il dit à sa femme, tu te souviens? Il dit, c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait, à Métierama. J'ai trouvé ça. Ouais, j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, oui, c'était l'époque où les jeunes ils viennent toujours un peu pour rencontrer des.
Non, vous pouvez trouver un job, voilà, et l'amour.
Ah ouais. Et ils ont tiré là. Pourquoi pas?
Non, mais il y a plein de gens qui, sincèrement, j'ai des histoires à raconter, des gens qui nous disent, mais moi c'est à Métierama que j'ai trouvé mon métier. Un banquier ou quelqu'un qui est venu qui a trouvé une information auprès d'un professionnel. Et il a trouvé son métier grâce à ça. Et il lui est redevable, en fait, à ce professionnel. Il a cherché à le retrouver pour lui dire vraiment, vous m'avez aidé. Vous imaginez même pas. La rencontre aujourd'hui. Métierama, c'est une rencontre entre les jeunes et les professionnels. Et il n'y a rien de mieux qu'une rencontre aujourd'hui physique.
C'est vrai.
La rencontre virtuelle, elle est bien. Mais la rencontre physique, il n'y a rien qui peut le changer.
Et ce sera donc les 18 et 19 mars au Parc Chanot de Marseille. Merci beaucoup Thierry d'être venu.
Merci Radio Star.
C'était très intéressant de vous écouter sur ce sujet. On se retrouve demain, midi 19h,
oui, sur Radio Star. On va parler du Salon de la Nutrition avec Julie Clément et Manon Boyer.
Salon de la Nutrition, c'est-à-dire, est-ce que tu as une piste sur ce que c'est, le Salon de la Nutrition?
Comment bien se nourrir, de la diététique, du bien-être, tout
très
ça.
Bien, très bien. Merci Pascal, merci Émilie, merci Thierry. Et puis on vous souhaite une excellente soirée sur Radio Star.